L'alliance du mariage numéro 9. Le 9e commandement. Tu n'es et m'y porteras point de faux témoignage. Dimanche 12 novembre 2000. Pasteur Brian Kozurek. Restons debout pendant que nous lisons la parole de Dieu. Exode 20:16. Tu n'es et m'y porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Courbons maintenant nos têtes et nos cœurs dans un mot de remerciement et de prière. Cher Père, nous venons ce matin à tes paroles. Sachant que par elles tu as formé les cieux et la terre, et par elles tu maintiens toutes choses. Nous te demanderions ce matin, Père, de bénir la matrice de nos pensées, afin que nous puissions recevoir ta semence parole dans nos cœurs et dans nos pensées, pour qu'elle puisse nous apporter la vie qui estère dans tes paroles, et les fruits que tu nous as destinés avant les fondations du monde, car nous le demandons au nom le plus précieux de ton cher Fils, et notre frère, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous avons pris notre texte dans Exode 20:16. Tu n'es et m'y porteras point de faux témoignage. Ce sera le numéro 9 de notre série L'Alliance du Mariage, et nous parlerons du 9e commandement, tu n'es et m'y porteras point de faux témoignage. Nous prenons encore ces 10 commandements dans cette série, et nous montrerons leur application dans l'Alliance du Mariage. Comme j'ai déclaré tout le long de cette série, je crois que Dieu a donné à l'homme les 10 commandements, non pas comme une arme avec laquelle nous battre, mais comme des lois pour régir et promouvoir des meilleures relations entre Dieu et l'homme. Et donc, comme telles, je crois qu'elles sont un outil très utile pour être utilisé dans l'alliance du mariage, pour promouvoir une relation plus saine entre l'homme et sa femme. Comme nous l'avons vu dans notre étude, du 8e commandement, tu n'es et m'y voleras point. Aucun mariage Néhémie peut durer dans une atmosphère d'égoïsme, tel que Esther moi d'abord. Nous avons vu qu'un mariage basé sur le concept de moitié-moitié court à la ruine, parce qu'il est basé sur un système de mérite et personne Néhémie peut répondre aux attentes de l'autre. Le système de mérite 50-50 dit, si tu fais ceci pour moi, je ferai ceci pour toi. Esther la philosophie d'un service envoie un autre. Et cela est voué à l'échec, et cela doit échouer parce que cela est basé sur des attentes, et à moins que vous ayez tous les deux une compréhension mutuelle de ce qu'attend l'autre, vous n'aimez pourrez jamais le satisfaire. D'ailleurs, toute relation qui n'est pas basée sur la grâce n'aimez durera jamais. Et la grâce dit, je t'aime malgré tout et je veux te rendre service même si tu n'aimes me donne rien en retour. Et quand vous n'attendez rien en retour, vous êtes béni quand vous recevez quelque chose. Jésus a enseigné, rendez service et n'attendez rien en retour. Il a aussi enseigné, traitez les autres comme vous voudrez qu'ils vous traitent. Par conséquent, nous savons que, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9:35. Au lieu de vouloir être le premier, nous devons être disposés à être le dernier. Au lieu de vouloir être servi, nous devons être disposés à servir. Jésus a aussi dit dans Matthieu 16:25 que, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Au lieu d'essayer de sauver nos vies, nous devons les perdre. Nous devons aimer notre prochain, notre conjoint, autant que nous nous aimons. Nous devons en arriver au point où l'égocentrisme n'a pas de place dans notre vie. Si nous voulons être servis, alors nous devons servir. Pour se faire des amis, on doit se montrer amical. L'isolement n'engendre jamais des amitiés. Être là pour les autres fera que les autres soient là pour vous. Vous récoltez ce que vous semez. Si vous semez en petite quantité, vous récolterez aussi en petite quantité. Si vous êtes avare à aider les autres, vous recevrez peu en retour. Semez abondamment et vous récolterez abondamment. 2 Corinthiens 9:6. Sachez-le, Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, avec générosité. Libéralité, version King James. Trad. Moissonnera abondamment. Le mot abondamment veut dire le faire de bonne grâce. Avec des bénédictions. Et de la louange dans vos cœurs. C'est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans tristesse ni contrainte. Non pas avec de la peine dans vos cœurs, ni avec de la douleur et de la tristesse. Non. Cela n'est mis vous produirait jamais rien de bon. Combien ont jamais donné puis un peu plus tard ceux à qui vous avez donné s'en prennent à vous et vous avez souhaité n'est mis jamais leur avoir donné autant de vous-même? Eh bien, Paul nous dit ici que Dieu n'aime pas cela. Vous donnez et êtes heureux d'avoir eu l'opportunité de donner. Et malgré qu'ils s'en prennent à vous, cela n'est mis devrait pas entrer en ligne de compte. C'est un problème entre eux et Dieu. Si vous donnez à contre-cœur, vous recevrez à contre-cœur. Donc, Paul a dit, c'est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. En d'autres termes, Néhémie donnez pas parce que vous devez donner, ou parce que vous sentez que vous feriez mieux de donner, parce que vous Néhémie recevrez des autres que de la même manière que vous donnez aux autres. Et Paul continue, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'aimerais lire ceci à partir du texte massorétique. Si souvenez-vous de ceci, quiconque sème en petite quantité récoltera aussi en petite quantité, et quiconque sème abondamment récoltera aussi abondamment. C'est chaque homme devra donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur de donner, pas un contre-cœur ni sous la contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Remarquez, ce n'est pas tous ceux qui donnent, mais celui qui donne avec joie. 8 Et Dieu est capable de faire que vous abondiez en toute grâce, afin qu'en toute chose et à tout moment, ayant tout ce dont vous avez besoin, vous abondiez en toute bonne œuvre. 9 Comme il est écrit, il a répandu partout ses dons à l'indigent. Sa justice subsiste à jamais. 10 Maintenant celui qui pourvoit la semence au semeur et du pain pour nourriture, pourvoira aussi et augmentera votre réserve de semences et augmentera la moisson de votre justice. 11 Vous serez enrichi à tout égard, en sorte que vous puissiez être généreux à chaque occasion, et qu'au travers de nous votre générosité ait pour résultat des actions de grâce à Dieu. Vous voyez, Dieu donne à ceux qui donnent, en sorte que par eux, ils puissent donner plus encore. C'est ainsi que Dieu opère. Quand vous montrez à Dieu que vous êtes disposé à donner, il pourvoira à vos besoins, de sorte que vous puissiez avoir plus à donner. 12 Ce service que vous rendez pourvoit non seulement aux besoins du peuple de Dieu, mais déborde aussi en plusieurs expressions de remerciement à Dieu. 13 À cause du service par lequel vous avez fait vos preuves, les hommes loueront Dieu pour l'obéissance qui accompagne votre confession de l'Évangile de Christ, et pour votre générosité à partager avec eux et avec tous les autres. 14 Et dans leur prière pour vous, ils seront de tout cœur avec vous, à cause de la grâce exceptionnelle que Dieu vous a donnée. 15 Rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Or bien que nous pourrions continuer avec ces pensées de l'égoïsme dans le mariage par opposition au cœur qui donne, néanmoins nous devrons aller de l'avant dans notre étude des 10 commandements dans l'alliance du mariage. Par conséquent, ce matin, j'aimerais continuer avec le 9e commandement. Exode 20:16 Tu n'émis portera point de faux témoignage contre ton prochain. Or la question doit nous venir à l'esprit. Comment cela se rapporte-t-il avec l'alliance du mariage? Notre réponse est très simple. Mais d'abord nous devons savoir ce que signifie porter de faux témoignages. Le mot hébreu utilisé ici s'ester le mot shker, shé-ker, et il signifie décevoir, falsifier ou tromper. Et comment une union de mariage pourrait-elle coller quand le mari ou la femme se mente ou trompe délibérément l'autre, ou mène une vie de duperie? Or je n'ai mis par le pas de malentendu. Je parle d'une tromperie voulue et d'un comportement frauduleux. Le mot shker utilisé pour faux témoignage vient de la racine du mot shakar, shokar, qui signifie agir déloyalement, être déloyal, ou tricher. Par conséquent, nous pouvons encore voir qu'il existe un certain égocentrisme dans une personne qui est occupée à mentir, ou qui crée une atmosphère de déception et de méfiance. Et ma préoccupation est que vous, les jeunes, vous soyez très prudents quand vous vous décidez à prendre un conjoint ou une conjointe. Vous feriez mieux de vous assurer que cette personne à laquelle vous vous intéressez est mûre et a un cœur qui donne. Parce que si elle est égoïste ou égocentrique, cela finira toujours par vous tomber dessus. Et vous dites, comment saurais-je si ce jeune homme ou cette jeune fille a un cœur qui donne? Eh bien, tout d'abord, cherchez à découvrir s'ils paient leurs dîmes et donnent leurs offrandes de plein gré. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Le font-ils à contre-cœur et en petite quantité? Alors, s'ils agissent ainsi avec Dieu, comment pensez-vous qu'ils agiront avec vous? Je connais plusieurs hommes qui sont si radins avec leurs femmes qu'en fin de compte elles travaillent en dehors de la maison juste pour avoir de l'argent, qu'elles pouvaient se sentir libres de dépenser pour de petites choses. Et si vous suivez cette piste de l'argent, vous découvrirez aussi que ces hommes sont très pingres avec Dieu. Ils n'émupaient pas leurs dîmes, ils n'apportent pas leurs offrandes à l'église et ils croient que s'ils donnent 200 ou 300 $ par an à l'église, ils sont des dépensiers de très grande envergure. Il existe une vieille locution, suivez la piste de l'argent et ça marche à chaque fois. Il y a bien des années, Frère Vell m'a dit, si tu observes ce qu'une personne fait de son argent, ça te dira presque plus au sujet de cette personne que toute autre chose. Et c'est si vrai. Suivez la piste de l'argent. Voulez-vous savoir quel genre d'époux sera ce garçon d'ici 5 ans? Suivez la piste de l'argent. Voulez-vous savoir quel genre d'épouse elle sera d'ici 5 ans? Suivez la piste de l'argent. Que fait-elle de son supplément d'argent? Que fait-il de son supplément d'argent? Place-t-il Dieu en premier? Est-elle une personne altruiste qui place les besoins des autres d'eux et s'assuse des siens? Est-elle une personne qui donne, qui pense aux besoins des autres avant de penser aux siennes? Eh bien, comment le savez-vous? Suivez la piste de l'argent. Faites-vous des chèques sans provision? Avez-vous des dettes de carte de crédit? Suivez la piste de l'argent. Alors comment ça, vous posez les 5 pourquoi est-ce? Pourquoi as-tu des dettes de carte de crédit? Ensuite quand il vous dit ce qu'il a acheté, alors posez-lui encore la question. Pourquoi l'a-t-il acheté? Ensuite quand il vous dit pourquoi il l'a acheté, alors demandez encore pourquoi. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à ce que vous arriviez à l'origine du problème, qui n'estère jamais un besoin, mais une envie qui n'a pas été maîtrisée. Il y a des années dans une autre église où j'allais, un certain frère Esther venu chez les diacres, parce qu'il n'arrivait pas à payer le loyer de son appartement de ce mois-là. Il est venu chez les diacres pour solliciter l'aide de l'église. La première question que le président des diacres posa fut, qu'avez-vous acheté récemment, qui n'est-ce pas un achat habituel de nourriture ou de vêtements? Après avoir demandé des éclaircissements, ils ont découvert qu'il avait acheté une stéréo qu'il n'avait pas les moyens d'acheter. Au lieu de lui donner l'argent du loyer, on lui a conseillé de rendre la stéréo, alors il pourrait payer lui-même son loyer. Qu'il le sache ou pas, ce diacre suivait la piste de l'argent, et elle menait à l'origine du problème. Dans Apocalypse 3h17 nous entendons Jésus dire, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu n'es mis, c'est pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'attitude de Laodicée Esther de dire, je suis riche. Regardez tout ce que je possède. Je me suis enrichi. J'ai beaucoup de choses. Et cependant Jésus dit, ils sont pauvres, aveugles et nus. Or je n'ai mis pense pas qu'il nous parlait seulement de leur condition spirituelle. Bien que ce soit vrai qu'ils sont spirituellement pauvres, aveugles et nus. Et bien qu'ils possèdent beaucoup de choses, mais ils sont tellement endettés que leurs dettes ont fait d'eux des esclaves, qui doivent travailler pour les payer. Aujourd'hui la majorité de Jean-Néhémie sont rien de plus que des esclaves par contrat. Plus de 50% de tout ce qui est acheté sur le marché est payé par carte de crédit. Et le stratagème est qu'on vous offre des cartes avec des dépenses presque illimitées. Et quand vous en arrivez au point où vous avez épuisé la carte, vous demandez simplement une autre avec un plus haut niveau de crédit jusqu'à ce que vous soyez lié comme un esclave par contrat, travaillant juste pour effectuer les paiements minimums. Quel piège du diable! Voyez comment Pierre nous met en garde dans 2 Pierre 2h18 avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent, attirent, ils tentent, ils trompent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. 19 Ils leur promettent la liberté, ou plus précisément, ils leur promettent la liberté de faire comme bon leur semble, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui est triomphé de lui. Et voici donc votre réponse pour savoir si vous devriez utiliser des cartes de crédit ou pas. Esther se pratique? Assurément. Elles sont faites pour être pratiques. Matthieu 7h13 Entrez par la porte étroite, étroite Esther la porte, car large Esther la porte, spacieuse Esther le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Paul a dit à Corinthiens 6h12 Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, cela veut dire profitable, tout m'est permis, mais je n'ai mis me laissera servir par quoi que ce soit. Ainsi nombreux sont ceux qui utilisent l'argument, eh bien, l'offre était si bonne que je devais tout de suite en profiter. Ils ont dit profiter de ces prix demain sera trop tard. Et vous vous êtes fait avoir par cette vieille astuce pour vendre. Mais quand vous avez payé par carte de crédit, vous finissez par payer 18 à 20% d'intérêt et maintenant vous payez l'intérêt sur l'intérêt. Combien ont jamais entendu cette astuce pour faire vendre, achetez moins cher aujourd'hui car demain les prix montent. S'il vous est arrivé d'entendre ces émissions de marchandisage à la radio ou à la télévision, ils disent, vente exceptionnelle aujourd'hui, seulement. Et pourtant cette même émission est diffusée à peu près une fois par semaine et le prix n'est mis change jamais. Au contraire, il baisse. Alors que vous venez à peine de l'acheter. C'est que le sien madame avec les ordinateurs. Oh! Il faut absolument que j'achète ce modèle. Et pourtant si vous aviez attendu quelques mois cela aurait été environ la moitié du prix. Parce qu'un plus flambant neuf en fera baisser le prix. Ainsi nous parlons de la tromperie. Et maintenant voyons comment cette tromperie fait son chemin dans le mariage. Nous avons découvert que les mots, tu Néhémie portera point de faux témoignage contre ton, signifie que vous Néhémie devriez jamais être sciemment coupable de mensonge dans l'intention de tromper. Il est dit, contre ton. Et c'est la clé. C'est une chose de se mentir à soi, mais c'est tout autre chose quand votre mensonge implique une autre personne. Et comme j'en ai fait la remarque plus tôt, ce mensonge ou tromperie Néhémie veut pas seulement dire mentir à votre femme. Mais cela signifie aussi être impliqué dans le mensonge. Ou la tromperie et cela a un effet direct sur votre épouse. Si votre conjoint n'est mis paie pas ses dîmes, il vole Dieu. Or si cet argent est en partie vous et re-argent, alors vous payerez aussi les conséquences. Mes enfants savent qu'aussi longtemps qu'ils vivent sous mon toit, ils obéiront aux lois de Dieu auxquelles j'obéis. Parce que s'ils n'aiment et le font pas, ils amèneront la malédiction dans ma maison. Par conséquent, mes enfants savent ce que ça signifie de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Je m'assure qu'ils savent qu'ils sont bénis. Le parent qui n'est mis fait pas respecter la parole de Dieu dans sa maison, prive ses enfants des bénédictions de Dieu. Un autre moyen par lequel votre conjoint, eux, peut porter de faux témoignages, c'est dans leur profession. Déclarent-ils être croyants et ensuite n'aiment pas vivre leur profession. S'ils arrivent à tromper les frères, alors ils vous tromperont vous aussi. Dans le message Les Oins du Temps de la Fin, M25.07.965 paragraphe 49, frère Branham a dit, donc, vous pouvez faire une grève dessus, vous voyez. Tous les pamplemousses, les citrons, les tangelos, les mandarines, n'importe quels agrumes, ils peuvent tout, vivre sur cet arbre. Mais ils rendent un faux témoignage de l'arbre, ils vivent de l'arbre. Vous le voyez? Ils vivent et ils se développent grâce à la vie véritable qu'il y a dans cet arbre. Maintenant, voilà Matthieu 24, 24. Ils vivent de la même si ceux, mais ils n'étaient pas des vrais, au commencement. Ils rendent un faux témoignage de cet arbre. C'est un oranger, et pourtant c'est un arbre porteur d'agrumes. Et ils disent, cette église, cette dénomination rend témoignage de Christ, et ils ont un faux baptême, un faux témoignage de la parole. Ils cherchent à dire que la puissance de Dieu, c'était seulement pour les disciples. Remarquez, ils sont greffés sur l'arbre mais n'aiment sont pas dans la semence originelle de cet arbre. Une orange peut être greffée sur un pamplemoussier et toutefois vivre de cet arbre, parce que c'est un agrume. Et si vous deviez regarder à l'arbre, vous penseriez que c'était un pamplemoussier, parce qu'il y a des pamplemousses qui poussent. Et combien les gens peuvent être trompeurs. Ils déclarent être chrétiens. Ils ont une forme de piété mais ils renient la parole. Éloigne-toi de ces hommes-là. Souvenez-vous, le mot hébreu utilisé pour porter de faux témoignages, c'est le mot shker, sheker, et il signifie décevoir, falsifier ou tromper. Nous parlons d'une tromperie voulue et d'un comportement frauduleux. Et vous, Néhémie, pouvez pas établir l'unité si vous, Néhémie, pouvez pas établir la confiance. Le contraire du mensonge, c'est la sincérité et l'honnêteté. Webster nous dit que l'honnêteté, c'est le fait d'être affranchi du mensonge, du vol et de la tricherie. Et être honnête implique la confiance et la crédibilité. Webster nous dit que la confiance, c'est la ferme conviction ou croyance dans l'honnêteté. L'intégrité, la fiabilité, l'équité, etc., d'un autre ou d'une chose. En d'autres termes, la foi. Et quand elle est évidente entre deux personnes, vous, Néhémie, pouvez vous empêcher d'aimer cette personne. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, 4, 1. L'amour est patient, en d'autres termes, cela signifie se montrer patient en supportant les offenses et les torts que vous font subir les autres. Être doux et lent à punir. 2. L'amour est plein de bonté, se montrer doux. Être gentil, user de gentillesse. 3. L'amour n'est pas envieux, être animé ou bouillir de jalousie, de haine, de colère. Dans un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien. 4. L'amour Néhémie se vante point, se vanter. Un étalage de soi, en employant des embellissements rhétoriques, en se louant à l'excès. 5. L'amour n'est mis sans flot point d'orgueil, se gonfler, occasionner de gonfler, s'enfler, se rendre orgueilleux, être enflé, se comporter avec hauteur, dédain. 6. L'amour n'est mis fait rien de malhonnête, agir de façon malséante. 7. L'amour n'est mis cherche point son intérêt, elle n'espère pas égocentrique. 8. L'amour n'est mis s'irrite point, irrité, provoqué, excité à la colère, dédaigné, méprisé, se fâcher, exaspéré, bouillir de colère. 9. L'amour n'est mis soupçonne point le mal acquis, n'a pas de mauvaise pensée vis-à-vis des bien-aimés. 10. L'amour n'est mis se réjouit point de l'injustice, n'est mis se réjouit pas de l'iniquité, version anglaise du roi Jacques Trade. Se réjouir, être content, se réjouir extrêmement, et l'iniquité égale injustice grave, c'est-à-dire quelque chose que vous savez, devoir faire mais que vous n'avez mis faites pas. 11. Mais l'amour se réjouit de la vérité, se réjouir de participer à la joie d'un autre, se réjouir ensemble, complimenter. 12. L'amour excuse tout, couvrir de silence, tenir secret, taire, dissimuler, c'est-à-dire l'amour tait et pardonne les erreurs et les fautes des autres trois en tenant secret, pour protéger de toute menace, faire face à, tenir bon devant, et ainsi endurer, supporter, s'abstenir de parler. 13. L'amour croit tout, se consacrer à, avoir confiance en, se dévouer à se fier, penser être fidèle loyal, être persuadé de, ajouter foi, faire confiance à. 14. L'amour espère tout, attendre ardemment. 15. L'amour supporte tout, supporter, supporter patiemment, attendre, endurer. Être patient avec, tolérer, reste avec, rester derrière, supporter. Néhémie pas s'éloigner ou s'enfuir, conserver, dans le malheur et l'épreuve tenir fermement sa foi. Endurer, supporter bravement et calmement, les mauvais traitements. 16. L'amour Néhémie périt jamais, la charité Néhémie fait jamais défaut, version anglaise du roi Jacques Trade. Manquer de. Diminuer, métaphoriquement, manquer d'une chose, la perdre. Maintenant, si vous avez ce genre d'amour pour cet homme ou pour cette femme, vous aurez aussi tous les attributs de l'amour. Et si vous n'avez pas ces attributs de l'amour, vous n'avez pas l'amour, vous avez de l'affection, il se peut que vous ayez de l'engouement, il se peut que vous l'aimiez bien, mais si vous l'aimez réellement, alors réellement vous endurerez toute chose, vous espérerez le meilleur en toute chose, vous croiriez le meilleur en toute chose, vous pardonnerez toute chose, vous serez gentil, et non pas égocentrique, et vous vous réjouirez ensemble, et Néhémie vous ferait pas passer avant tout. Maintenant, comment allons-nous avoir de l'amour pour les frères et les sœurs, si nous n'aimons pas pouvons pas avoir ce genre d'amour pour notre conjoint ou conjointe? L'adoption, E22.05.96010, j'ai dit, ô, Seigneur, c'est pour ça que je suis ici, à l'église, j'essaie de mettre l'église en ordre. De vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une chose qui peut entrer là, c'est l'amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèle au Branham Tabernacle, à l'église méthodiste ou à l'église baptiste. C'est bien, vous devez l'être. Mais, oh, mes amis, vous, devez, non pas parce que vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, que vous avez chassé des démons ou déplacé des montagnes par la foi. Tout ça, c'est-ce bien? En effet, c'est-ce bien? Mais n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait à l'intérieur. C'était là que, espace non enregistré sur la bande tirène.d.e accent aigu. Sommes aussi devenus héritiers. Nous héritons de quoi? De la vie éternelle. Ayant été prédestinés. Sans de comment? Esther, ce que tout le monde comprend ça? Esther, ce vous qui avez fait appel à Dieu? Non. C'est Esther Dieu qui a fait appel à vous. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Esther Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, nul ennemi peut venir à moi, si mon père ennemi l'attire premièrement. Vous voyez, c'est Esther de la nature de l'homme de fuir Dieu. Et, vous direz, là, centre homme et c'est Esther ça qui m'agace, c'est Esther de vous prêcher. Néhémie, continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez. Maintenant. Écoutez-moi. Je le dis. Ainsi dit le Seigneur. Je Néhémie me suis jamais donné ce nom-là. Je Néhémie le suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète. Ou un prophète. Le monde croit ça. Autour du monde. Des millions. Des millions et des millions de gens. J'ai parlé directement et indirectement à 10 ou 12 millions de gens, ou plus, parlé directement. J'ai eu des dizaines de milliers de visions, des signes et des prodiges, et pas une seule fois ça n'a failli. Et c'est vrai. Il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué, elles sont arrivées exactement telles quelles. Je serais prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet-là. C'est vrai. Je n'ai prétend pas être prophète. Mais écoutez-moi bien. Son 4 ainsi dit le Seigneur. Il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça Néhémie comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous soyez tellement rempli de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. 105 Je suis tout simplement, comme je le disais ce matin, je suis fait, ma nature tout entière, c'est Esther la grâce. Bien des gens disent, gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour toi. Ça, ce n'est Esther pas la grâce. La grâce, c'est Esther. Si vous avez des démangeaisons dans le dos, je vous gratterai le dos quand même. Que vous me grattiez le dos ou pas, giflez-moi. Et dites, j'ai besoin de me faire démanger. De me faire gratter le dos, je vous le gratterai. Voyez? C'est Esther ça. Faites quelque chose. Je n'y crois pas aux œuvres. Je crois que les œuvres, c'est Esther l'amour. Les œuvres, c'est Esther les œuvres, c'est Esther la manifestation, qui montre que la grâce a été appliquée. Je n'y suis pas fidèle à mon épouse, parce que je crois qu'elle divorcerait avec moi si je n'y l'étais pas. Je lui suis fidèle parce que je l'aime. 106 Je n'y prêche pas l'évangile parce que je pense que j'irai en enfer si je n'y le faisais pas. Je prêche l'évangile parce que je l'aime. Certainement. Pensez-vous que je traverserai les mers déchaînées, avec les avions qui piquent et qui remontent, comme ça, et les éclairs qui brillent partout, et tout le reste, et, d'une minute à l'autre, et tout le monde qui crie, et les je vous salue, Marie, qui se font entendre partout dans l'avion. Et tout. Les gens qui sont ballottés dans leur ceinture de sécurité. Et le pilote qui annonce, il nous reste assez d'essence pour tenir encore 15 minutes. Et je n'ai mis ce pas où nous sommes. Pensez-vous que je ferais ça? Rien que pour le plaisir? Pensez-vous que j'irais là-bas? Dans la jungle? Où des soldats allemands devaient m'entourer de leurs bras. Comme ceci? Tous les soirs? Pour me faire entrer et sortir de la réunion? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit se mette à accomplir des miracles? Des communistes me guettent avec des télescopes d'observation de nuit? Pour me tirer dessus à une distance d'un mille, un kilomètre et demi tirène d'été. Pensez-vous que je ferais ça? Rien que pour le plaisir? C'est-à-dire parce que quelque chose en moi aime? Ce sont des êtres humains, pour lesquels Christ est mort. Paul a dit, je suis prêt, non seulement à aller à Jérusalem, mais j'y vais pour y être crucifié. J'y vais mourir. J'y vais mourir pour la cause du Seigneur. C'est-à-dire quelque chose? C'est-à-dire un amour qui vous contraint, qui vous pousse. Voilà l'exacte vérité. Sans cette, si j'avais prêché l'évangile pour l'argent, si ça avait été le cas, je n'ai mis serait pas endetté de 20 000 dollars ce soir, je n'ai mis serait pas endetté comme ça. Non monsieur. Parce que j'aurais gardé quelques-uns des millions qui m'ont été donnés. Un homme, un seul homme, m'a envoyé des agents du FBI avec une traîne $1,500,000. Et j'ai dit, reprenez-la. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas l'argent. Je n'ai mis prêche pas l'évangile pour l'argent. Ce n'est pas pour ça. 108 sesterces par amour. Ce que je veux, sesterces, quand je serai de l'autre côté du dernier souffle, là-bas. Ce pourrait être dans 5 minutes. Ce pourrait être dans 2 heures. Ce pourrait être dans 50 ans. Je n'émissais pas quand ce sera. Mais quand j'y arriverai, que j'arriverai là-bas, je veux vous voir, dans la splendeur de la jeunesse, à courir, crier, mon frère bien-aimé. Mon frère. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. C'est-à-dire pour ça. Je n'ai mis cherche pas à être en désaccord avec vous pour être différent, mais je cherche à vous mettre sur le droit chemin. C'est-à-dire par ce moyen-là qu'on y entre. Pas par votre église, pas par votre dénomination, mais par votre naissance en Christ. Oh là là. Fiu. C'est Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2011. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.fr.